Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On s'est sûrement déjà tous retrouvés face à AutoCAD, enchaîner des clics pour des tâches, bon, disons un peu répétitives.
Ah oui, ça part à beaucoup de monde, je pense.
Et on se dit, mais il n'y a pas moyen d'automatiser ça. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si. Et ça peut passer par un outil qu'on connaît peut-être, Python.
En effet, l'idée de combiner la souplesse de Python avec la puissance de dessin d'AutoCAD, c'est assez séduisant, oui.
Ça ouvre des portes.
Pour gagner du temps, réduire les erreurs.
C'est exactement ça notre sujet aujourd'hui. On a regardé pas mal de sources, des tutos vidéo, des articles, des discussions sur des forums, pour vraiment creuser ce qu'est PyAutoCAD. On va voir ce que c'est, comment ça s'installe, comment on l'utilise pour des choses simples, et puis un projet un peu plus costaud. Et surtout, le situer par rapport aux autres options d'automatisation dans AutoCAD.
Parfait programme.
Alors, c'est parti pour l'analyse.
Bon alors, commençons par la base. PyAutoCAD, c'est quoi au juste?
Oui.
Pour faire simple, c'est une bibliothèque Python. Elle est faite pour discuter avec le logiciel AutoCAD.
D'accord.
Techniquement, ça passe par l'interface ActiveX Automation, ou COM. C'est une technologie Windows, en fait, qui permet à des logiciels de se parler entre eux.
COM, ok. Donc ça passe par Windows, un peu comme une télécommande externe pour AutoCAD, si on veut. J'imagine qu'il y a des conditions pour que ça marche.
Tout à fait. Il y a quelques prérequis, oui. D'abord, et c'est essentiel, il faut une version complète d'AutoCAD, avec une licence.
Pas les versions LT.
Non, justement, les versions LT n'ont pas cette interface COM. Ensuite, AutoCAD doit être lancé, il doit tourner sur la machine au moment où le script s'exécute.
Logique.
Côté Python, il faut installer la bibliothèque COMTypes, c'est elle qui fait le pont COM.
D'accord.
Et dernier point important, ça ne fonctionne que sous Windows, à cause de cette dépendance à COM, justement.
Ok, c'est clair. Windows uniquement. Une fois qu'on a ça, l'installation de PyAutoCAD elle-même, ça a l'air simple d'après les sources. Juste un pip install PyAutoCAD.
C'est ça. Dans la ligne de commande Windows, c'est la méthode standard. Une vidéo montrait aussi qu'on peut l'installer depuis la console d'un éditeur comme VS Code.
Ah oui, pratique pour gérer les projets.
Exactement.
Simple. Et pour vérifier que, bon, que le lien est bien fait entre Python et AutoCAD, un petit test d'importation. From Python AutoCAD, import AutoCAD, appoint, quelque chose comme ça.
Voilà. Si cette ligne passe sans erreur, c'est que la bibliothèque est bien installée, bien reconnue.
Et ensuite?
Ensuite, l'étape clé, c'est de connecter le script à l'instance AutoCAD qui tourne. C'est la commande ACAD égale AutoCAD 1O.
ACAD égale AutoCAD.
C'est ça. Et cette variable ACAD, eh bien, c'est notre porte d'entrée. Pour être sûr que ça a marché, on peut afficher le nom du dessin actif. Print acad.doc.name.
Ah, et si le nom du fichier DWG s'affiche, c'est bon signe.
Exactement, on est connecté.
Parfait. Connexion établie, maintenant le cœur du sujet, faire dessiner AutoCAD via Python. On commence par la base, les points. Les sources parlent de A.xy ou A.xyz.
C'est l'objet fondamental, A. Pour définir des coordonnées. Et c'est à partir de ces A points qu'on va construire tout le reste.
D'accord.
Par exemple, pour tracer une ligne entre deux points P1 et P2.
Oui.
C'est aussi simple que acad.model.addline P1 P2. Les acad.model, ça fait référence à l'espace modèle du dessin.
Intuitif. Et pour un cercle, j'imagine une logique similaire. J'ai vu acad.model.addCircle centre rayon.
Précisément. Où centre est un A point, bien sûr, et rayon un nombre.
Et le texte?
Pour le texte, c'est acad.model.addText. On lui donne la chaîne de caractères, le point d'insertion, un appoint encore, et la hauteur du texte.
OK.
Une source mentionnée en formatage un peu particulier, u.formattext. C'est une bonne précaution, surtout s'il y a des accents ou des caractères spéciaux dans le texte, pour être sûr qu'il passe bien à AutoCAD.
Bonne astuce, d'accord pour les formes simples. Mais les polylignes, c'est les lignes connectées qui font un seul objet. J'ai vu acad.model.addPolyligne avec un tableau de points.
C'est ça. On lui donne une liste ou un tableau de point à point. Et là, il y a une petite subtilité qu'on rencontre souvent.
Ah oui.
Même si on travaille en 2D, AutoCAD s'attend généralement à recevoir des coordonnées 3D.
Ah bon?
Oui. Donc, même pour une polyligne toute simple sur le plan XY, il faudra souvent fournir des points comme A point X, Y, 0.
D'accord. Avec Z, 0.
Exactement. Et parfois, il faut aussi convertir la liste de points Python dans un format de tableau que l'interface COM comprend bien. Une fonction comme « adouble » était mentionnée dans des exemples pour ça.
Une sorte de traduction, alors?
C'est un peu ça, oui. C'est la conséquence du dialogue entre Python et cette interface COM un peu plus ancienne d'AutoCAD.
Bon, maintenant qu'on a les briques de base, passons à un exemple plus concret, qui montre vraiment l'intérêt de tout ça. Une vidéo présentait la génération d'un plan topo à partir d'un fichier texte. Ça, c'était parlant.
Ah oui, ce genre de cas pratique, ça illustre parfaitement la puissance de l'automatisation. L'idée, c'est ça. On a un fichier .txt avec des points, un nom, x, y.
Oui.
Et on demande à Python de lire ça et ensuite de dessiner dans AutoCAD le contour qui relie les points, un petit marqueur, une borne à chaque point, et puis le nom du point, le matricule, comme texte.
D'accord. Alors, comment on s'y prend? La première étape, c'est de récupérer les données du fichier texte en Python, j'imagine.
C'est ça. On ouvre le fichier, on lit les lignes. Pour chaque ligne, on utilise split pour séparer le nom, le x, le y, qui sont des chaînes de caractères au départ.
D'accord.
Puis on convertit x et y en nombres avec float. Et on stocke tout ça dans des listes Python bien propres. Une pour les noms, une pour les x, une pour les y.
OK, données en mémoire. Ensuite, comment on dessine le contour? J'ai noté une astuce avec l'opérateur modulo pour fermer la boucle.
Exactement, c'est très malin. On fait une boucle sur nos listes de coordonnées. Pour chaque point i, on crée l'objet a point.
A point, liste x, i, liste y?
Voilà. Pour tracer la ligne vers le point suivant, il faut trouver l'index du point suivant. C'est là que le modulo pourcent intervient. Si on a n points, l'index suivant, c'est i plus 1 pourcent.
Ah oui, comme ça, le dernier point pointe bien vers le premier.
Exactement. Ça ferme le polygone. Et ensuite, on trace la ligne avec acad.model.addLine entre le point courant et le point suivant.
Malin. Et pour les bornes, ces petits carrés à chaque point, sans entrer dans les formules exactes, c'est quoi l'idée?
L'idée, c'est de calculer les quatre coins d'un petit carré autour du point principal. On définit une petite taille, disons taille borne.
Mm-hmm.
Et à partir de x et y, on calcule les coordonnées des coins. X taille borne, y taille borne, x plus taille borne, y taille borne, etc. pour les quatre coins.
D'accord.
On met ces quatre points, plus le premier à la fin, pour fermer le carré, dans une liste et on utilise acad.model.addPolyline.
Simple en théorie.
Oui, mais la clé, c'est ce que soulignait le tuto. Il faut ajuster cette taille borne. On fait un premier essai, on regarde dans AutoCAD. Ce qui paraît petit en chiffres peut être énorme à l'écran, ou l'inverse.
Faut tâtonner un peu pour le visuel.
C'est ça.
Et pour finir, les matricules, les noms des points.
On les ajoute avec ak.model.addText. Pour que ce soit lisible, on ne met pas le texte pile sur le point, mais un peu décalé.
Logique.
Par exemple, au-dessus à droite de la borne. On reprend les coordonnées du point, on ajoute taille borne, et ça nous donne le point insertion pour le texte. Et là aussi, la hauteur texte est un paramètre à ajuster.
D'accord.
Et le résultat final de ce genre de script, c'est assez impressionnant. Ce qui prendrait peut-être des heures de clic pour des centaines de points.
Oui, sûr.
C'est fait en quelques secondes. Et surtout, c'est réutilisable. On change le fichier de données en entrée, on relance le script et hop, un nouveau plan.
Là, on voit vraiment le gain. Pas juste le temps, mais aussi la fiabilité, j'imagine. Moins d'erreurs d'inattention.
Exactement. C'est là le gain stratégique.
C'est clair. Le potentiel est énorme pour générer des dessins à partir de données. Mais bon, dessiner, c'est une chose. Est-ce qu'on peut aussi manipuler la structure du dessin? Les calques, par exemple, ou modifier des objets qui existent déjà? J'ai vu une source qui parlait de la gestion des calques.
Absolument. Puis AutoCAD permet aussi d'interagir avec la structure du dessin. Pour les calques, on accède à la collection via acad.doc.layers.
Acad.doc.layers. D'accord.
À partir de là, on peut faire une boucle pour lister les calques existants, par exemple. For layer in acad.doc.layers, print layer.m.
Pratique. Et pour en ajouter un?
C'est acad.doc.layers. Add mon nouveau calque.
Simple. Et pour agir sur un calque précis, le sélectionner?
On le récupère par son nom. Mon calque égale acad.doc.layers, item, nom du calque. Une fois qu'on a cet objet mon calque, on peut changer ses propriétés.
Comme la couleur?
Oui. Par exemple, moncalque.color égale index couleur. Faut utiliser les index de couleur d'AutoCAD. Hein. 1 pour rouge, 7 pour blanc, noir, etc.
D'accord. Et le rendre visible ou invisible?
C'est moncalque.layeron égale true ou false. Très utile pour organiser le dessin par programme.
Très bien. Et pour les objets graphiques eux-mêmes, Les déplacer, les copier, les supprimer?
Oui, les opérations de base sont là. Copier, c'est la méthode point copier sur l'objet. Ça renvoie une référence vers la copie. Objet copie égale objet original point copie.
Et déplacer?
C'est objet à déplacer, point move, point départ, point arrivée. Ces deux appoints définissent le vecteur du déplacement.
D'accord. Et supprimer, une méthode point delete peut-être?
Exactement. Objet à supprimer, point delete. On pourrait même imaginer une boucle qui parcourt tout l'espace modèle acad.activeDocument.modelSpace et qui fait point delete sur chaque objet.
Oula!
Mais attention, c'est radical comme nettoyage. À utiliser avec une extrême prudence.
Oui, on imagine bien. D'autres manipulations courantes qu'on peut faire?
On trouve aussi la rotation. Objet.rotate.base angle en radian.
Angle en radian, important.
Oui. Le décalage ou offset, objet.offset, distance, la mise à l'échelle, objet.scale.base, facteur échelle, et même la mise en surbrillance, objet.highlight true, ça peut être utile pour montrer à l'utilisateur ce que le script a modifié.
Pas mal de possibilités donc. On peut créer, modifier, organiser. Maintenant, si on inverse le flux, est-ce qu'on peut extraire des infos depuis AutoCAD pour les utiliser ailleurs, dans Python par exemple?
C'est un point intéressant qu'une des sources abordées. En fait, AutoCAD a déjà un outil natif assez puissant pour ça. Data Extraction.
Ah oui, l'extraction de données.
Voilà, ça permet de sélectionner des objets et d'extraire plein de propriétés utiles. Les coordonnées, bien sûr, mais aussi les attributs de blocs, le contenu des textes, etc. Et on peut exporter ça typiquement vers Excel, en .xls ou .csv.
Donc, pour l'extraction, on utilise plutôt l'outil intégré d'AutoCAD. Et une fois qu'on a les données dans Excel?
Eh bien, la source suggérait d'utiliser Excel lui-même pour nettoyer ou reformater ces données.
D'accord.
Par exemple, utiliser des formules pour concaténer X, Y, Z dans un format précis ou filtrer ce qui ne nous intéresse pas avant de peut-être réimporter ça dans un script Python pour faire autre chose.
Astucieux. La même source parlait même d'utiliser des IA comme ChatGPT pour aider à générer une ébauche de script Python si on lui donne ses données bien formatées et qu'on explique bien ce qu'on veut faire.
Mmh.
On voit se dessiner un flux de travail assez complet, AutoCAD extraction, Excel pour préparer, Python éventuellement avec un coup de pouce de l'IA et retour à PyAutoCAD pour agir sur le dessin.
C'est un flux tout à fait envisageable, oui. Mais, et c'est important, il faut bien replacer PyAutoCAD dans son contexte.
C'est-à-dire?
Ce n'est qu'une des options pour automatiser AutoCAD. Il y a d'autres outils, plus anciens ou plus récents. Le plus historique, c'est Autolisp.
Ah oui, Autolisp, le langage maison d'AutoCAD. Les forums Autodesk en sont pleins. Il a cette réputation d'être hyper intégré, parfait pour des petites routines rapides, et il y a une communauté et des ressources énormes.
Tout à fait. C'est sa grande force, sa maturité, sa communauté. À l'autre bout du spectre, si on cherche la performance, il y a les API .NET.
.NET.
Pour le C++. L'avantage énorme de .NET et ARX, c'est que le code s'exécute en processus.
En processus.
Directement dans la mémoire d'AutoCAD. Et ça veut dire des performances bien meilleures, surtout si on manipule des très gros dessins ou qu'on fait des calculs très lourds.
D'accord. Donc, Lisp pour l'intégration et la communauté, .NET ARX pour la performance brute. Et PyAutoCAD alors, il se situe où? C'est quand le bon choix?
PyAutoCAD, qui utilise COM, communique hors processus. C'est un peu plus lent intrinsèquement. Mais son gros avantage, c'est sa facilité d'accès. Surtout pour ceux qui connaissent déjà Python.
Oui, Python est réputé plus lisible.
Voilà. Donc, c'est un super point d'entrée pour l'automatisation dans AutoCAD. C'est parfait pour des tâches de complexité, disons, faible à moyenne. La question de passer à .NET ou ARX se pose vraiment si on bute sur des problèmes de performance.
D'accord, c'est un compromis entre accessibilité et performance ultime. J'ai aussi vu passer le nom PyRX dans une discussion. C'est quoi ça? Une tentative de combiner les demandes?
Exactement. PyRX, c'est un projet qui essaie de fournir des liaisons Python pour le pays ARX. L'idée, c'est d'écrire en Python, mais que ça s'exécute en processus, comme du C++ ou du C#.
Ah, intéressant.
C'est prometteur pour avoir la performance avec la syntaxe Python. Mais c'est plus récent, peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre, et la communauté est plus petite pour l'instant.
Une option à suivre, donc. Et il y avait aussi une mention de SDXF dans un fil Reddit.
Oui, alors, ESDXF, c'est encore autre chose. C'est une bibliothèque Python qui permet de lire et d'écrire des fichiers DXF.
DSF, le format d'échange?
Oui. Et ça, ESDXF le fait directement, sans avoir besoin qu'AutoCAD soit installé ou lancé. C'est très utile pour manipuler des fichiers DXF offline. mais ça n'interagit pas avec AutoCAD en temps réel. Et comme le montrait la discussion Reddit, ça a ses propres défis, liés à la complexité du format DXF.
D'accord. Et cette discussion Reddit, d'ailleurs, soulevait une question très pointue sur comment supprimer des blocs spécifiques via Python et COM, et il n'y avait pas de réponse évidente. Ça montre bien que...
Exactement.
Quelle que soit la technologie, pour des besoins très spécifiques, il faut parfois s'attendre à devoir chercher, creuser la doc, demander à la communauté.
Absolument. Le choix de l'outil PyAutoCAD, Lisp, .NET, .RX ou même EZDXF, ça dépend vraiment du contexte, de la tâche à faire, des performances nécessaires, des compétences qu'on a déjà et du support qu'on peut trouver. Il n'y a pas une solution miracle qui soit la meilleure partout.
C'est une mise en perspective très claire, merci. Bon, si on résume un peu notre exploration d'aujourd'hui, PyAutoCAD, ça se révèle être un outil vraiment puissant et somme toute assez accessible.
Oui.
Surtout pour ceux qui ont déjà une petite base en Python et qui veulent automatiser des tâches répétitives dans AutoCAD. On a vu comment en installer, se connecter, dessiner, manipuler les objets, les calques et même générer des plans entiers à partir de données externes.
Mmh.
Le potentiel de gain de temps et de fiabilité, il est...
Il est considérable. Absolument. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un gourou de la programmation pour commencer à faire des choses utiles avec PyAutoCAD.
Mais...
Il faut quand même garder une vision d'ensemble de cet écosystème d'automatisation d'AutoCAD. Comprendre les forces et faiblesses de Lisp, de .NET, de PyRx, c'est important pour faire des choix éclairés sur le long terme quand les besoins évoluent.
Très bien résumé. Et pour conclure, peut-être lancer une petite piste de réflexion.
Ah oui, hein ?
Au-delà du dessin répétitif qu'on a beaucoup évoqué, quelle routine de conception ou d'analyse vraiment spécifique à un métier, architecte, mécanicien, ingénieur civil, pourrait être complètement réinventée grâce au script ? Et puis, question subsidiaire, quelles compétences nouvelles, au-delà du simple code, il faudrait développer pour pouvoir imaginer et mettre en place ces transformations ? Voilà de quoi réfléchir.